Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je me suis rendu compte après que mon thème tombait dans le thème du jour. Mais c'est Dieu qui conduit toutes choses. Comme je l'ai préparé depuis un bon moment, ça ne... Voilà. C'est fortuit. La parole de Dieu accorde une place importante aux généalogies. Dans l'Ancien Testament, bien sûr, avec de longs passages qui nous indiquent les généalogies du peuple d'Israël depuis Adam et Abraham, mais il en est une qui ouvre le Nouveau Testament, c'est celle de Jésus-Christ. Si nous lisons dans Matthieu au chapitre 1 et au verset 1, « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. » Je m'arrête là dans la liste parce que jusqu'à Jésus, il y a encore pas mal de générations qui vont défiler. Alors, avez-vous remarqué une singularité dans cette liste? Oui, tout à fait. Je pense que oui. Il y a les généalogies bibliques citent les hommes. Mais dans celle de Jésus-Christ, 4 femmes apparaissent associés à l'homme chef de famille. Alors je sais que c'est la fête des mères, je m'en suis rendu compte après, mais je vais vous parler de femmes qui sont devenues mères aussi, bien sûr, si elles sont dans la généalogie. Je me suis demandé pourquoi l'Esprit Saint inspirant Matthieu, lors de la rédaction de cette liste, avait placé ces femmes en évidence dans la généalogie du Messie. Dans l'établissement de notre arbre généalogique, je ne sais pas s'il y en a qui le font, moi, je ne suis pas trop penché, mais ce n'est pas les noms que l'on aurait peut-être souhaité voir apparaître, parce que peu flatteurs. Alors, selon les commandements divins, déjà, ils n'auraient pas dû figurer dans la généalogie de Jésus. Alors, pourquoi y sont-ils? Ce sera le thème de mon message aujourd'hui. Ils sont là pour nous parler de la miséricorde de notre Dieu, qui transforme des situations de faillite, de péché, de chute en démonstration de sa souveraine grâce. Alors prenons tout d'abord le premier cas, c'est celui de Tamar. Alors je lirai quelques extraits du chapitre 38 de la Genèse. Je vous invite à le relire en entier plus tard parce que je ne vais pas tout lire. Genèse chapitre 38 verset 1. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shéla. Judas était à Xib quand elle l'enfanta. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. » Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla et elle habita dans la maison de son père. Alors dans cet épisode, nous voyons Judas qui s'éloigne de sa famille et va construire sa vie auprès d'un adulamite dont il épouse la fille. Il s'allie donc avec un païen d'une nation idolâtre. De cette union réprouvée par Dieu naîtront 3 fils. Puis Judas va prendre une femme nommée Tamar, issue de ce peuple païen, pour son fils aîné, Er, qui faisait le mal. Mais Dieu applique son jugement sur cette situation par la mort d'Er. Il existait une loi, ou plutôt une règle, le Lévira, qui sera reprise dans la loi donnée à Moïse plus tard, qui, pour que l'héritage du défunt ne soit pas perdu faute de descendance, consistait aux frères survivants à donner une descendance à la veuve. C'est ce que nous trouvons dans le Deutéronome, chapitre 25, les versets 5 à 10. Dans le cas présent, Onan, le deuxième fils de Judas, n'a pas envie de respecter cela, car il sait bien que ce ne sera pas pour lui. Son égoïsme est sanctionné par Dieu. Il meurt lui aussi. Alors Judas, voyant que Dieu exerce son jugement sur ses fils, veut préserver Shéla, son cadet. Il renvoie Tamar dans sa famille, veuve et sans enfant, situation peu enviable à cette époque. Il n'y avait pas de protection sociale. Elle est victime de l'injustice de Judas, mais elle veut entrer dans la famille d'Israël, et c'est par une ruse qu'elle va piéger cet homme qui ne tient pas sa parole et la laisse dans l'affliction. Elle ne revendique pas l'union avec Shéla, malgré la promesse de Judas, qui lui compte sûrement sur la descendance de ce dernier pour assurer sa postérité, mais sans Tamar. Le temps passe, et Tamar, qui veut une place et une part dans la famille d'Israël, nous ne savons comment elle a compris l'élection et la bénédiction attachées à cette famille, mais elle va tout mettre en œuvre pour en faire partie. Nous voyons, verset 14, le stratagème peu glorieux qu'elle va utiliser pour piéger Judas. Elle se déguise en prostituée et cet homme, devenu veuf depuis peu, va aller avec elle. Elle exige un gage, car il n'a pas sur lui le montant de cet acte monnayé qui est estimé à un chevreau. Lorsque l'ami, envoyé pour apporter le dû, recherche cette femme de mauvaise vie, il se trouve bien en peine, car personne ne connaît de prostituée en ce lieu. La grossesse de Tamar, suite de cet acte annoncé à Judas, va lui faire prononcer un jugement terrible. Tamar doit être brûlée. Mais Tamar possède le gage que lui a laissé Judas, et la vérité éclate. Judas doit reconnaître sa faute et la juste cause de sa belle-fille. Deux enfants vont naître de cette union contre nature, Pérets et Zérak. Ils seront tous deux des descendants de Judas, Pérets avant Shéla, Pérets ayant même la première place dans cette descendance. Il sera le père de la branche royale au travers de David, puis bien sûr de Jésus. Que devons-nous retenir de cette histoire assez sordide et épilogue d'un chemin d'éloignement pris par Judas? Tamar, une Cananéenne, qui a été retirée de son origine païenne et placée par la pure grâce de Dieu au sein de la lignée royale choisie par Dieu et annoncée par le patriarche Jacob, un peu plus tard, lors de sa bénédiction sur sa famille. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Trouvons ça au chapitre 49 de la Genèse. Certes, la méthode dénote le manque de connaissance de la puissance divine par Tamar, mais sa foi a été honorée et la place au sein de la généalogie du Messie. Puis apparaît dans la généalogie de Jésus, Rahab. Nous lirons quelques versets dans Josué au chapitre 2. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho ». Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Alors pour positionner ce récit dans le temps, nous sommes après la mort de Moïse qui a chargé Josué de conduire la conquête du pays promis par Dieu à Abraham et à Jacob. La loi a été donnée au peuple par Moïse durant la longue marche dans le désert. Le peuple campe au bord du Jourdain et a remporté des victoires, comme l'a rappelé Rahab, sur Sihon et Og, qui avaient interdit le passage du peuple sur leur territoire et vu leur pays conquis par Israël. Ces victoires ont été médiatisées, comme nous dirions aujourd'hui, et inspirent la crainte aux habitants alentour. Josué, un bon stratège, sait que le renseignement est le nerf de la guerre et envoie donc deux espions à Jéricho, première ville forte à conquérir. Ils se réfugient chez une prostituée nommée Rahab, car le roi de Jéricho a aussi un service de renseignement efficace. Cette femme, sûrement méprisée et que ses contemporains devaient qualifier de mauvaise vie, va prendre une décision très risquée. Elle cache les espions, ment délibérément aux autorités de sa ville, devenant ainsi traître à sa nation. Qu'est-ce qui la pousse à une telle audace? Elle est surprenante de conviction. Elle sait que l'Éternel a donné le pays à Israël. Elle sait que l'Éternel est celui qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Surprenant pour une femme cananéenne d'une nation païenne et idolâtre, et qui exerce de plus une profession la mettant au banc de la société. La foi de Rahab est honorée par ces hommes qui font serment de l'épargner avec sa famille. Et nous savons que Josué honorera cette promesse et que cette famille se joindra au peuple d'Israël. Mais Dieu va aller plus loin et son union avec Salmon la placera dans la lignée royale. La troisième femme citée est Ruth. Lisons, pour préciser le contexte de cette si belle adoption au sein du peuple élu, dans le livre de Ruth au chapitre 1er. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kilion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Le récit que nous avons lu se situe au temps des juges, un temps de grands troubles et d'idolâtrie avec des rétablissements lorsque Dieu suscite un juge pour conduire son peuple, qui ne tarde pas à retomber encore plus bas dès que ce conducteur est retiré. C'est donc la famine qui pousse cette famille habitant Bethléem. Vous savez ce que signifie Bethléem ? La maison du pain. À s'expatrier au pays de Moab. Qui était Moab? C'était un peuple ennemi, bien qu'apparenté à Israël, car descendant de Lot, fruit d'un inceste de ce dernier avec sa fille aînée, au même titre qu'Amon avec la cadette. Nous voyons que l'Éternel a donné des consignes précises au sujet de ces peuples dans le livre du Deutéronome, au chapitre 23 et au verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité. Donc Élimélec s'est engagé dans une voie réprouvée, en s'exilant dans ce pays et en mettant ainsi sa famille au milieu de ce peuple avec qui il ne fallait pas s'allier. C'est après sa mort que ses deux fils épouseront des Moabites et mourront aussi après 10 ans de présence dans le pays de Moab sans descendance. Ce qui est un terrible jugement, car il signifie la disparition du nom et de l'héritage de cette famille. Voilà donc Naomi, veuve, ainsi que ses deux belles filles. Elle considère que la main du Seigneur s'est abattue sur elle. Elle veut que Orpa et Ruth retournent vers leurs parents et aussi vers leur Dieu. Quel contre-témoignage fait au grand Dieu de l'univers. Nous savons qu'Orpa suit ce conseil, mais la merveilleuse grâce divine va agir et Ruth faire un choix si précieux. Elle prononce cette phrase qui la place au-dessus de cette loi du Deutéronome. Où tu iras, j'irai, là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu, là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enseveli. Ruth est d'une résolution totale, elle qui ne connaît ce peuple qu'au travers d'une famille décimée, et ce Dieu qu'au travers du jugement que constate sa belle-mère. Vous conviendrez qu'au niveau évangélisation, on fait mieux. Mais le cœur de Ruth a choisi la bonne part. Elle se positionne par ce choix dans le plan de Dieu malgré ses handicaps originels. Là encore, nous ne pouvons que constater la grâce de Dieu qui connaît les cœurs. Leur retour vers Bethléem, puis leur installation sans aucune ressource, met encore en avant l'énergie de Ruth, qui va glaner pour survivre, travail réservé aux indigents. Boaz, riche parent d'Élimélec, va lui aussi laisser son cœur ouvert et faire fi des a priori pour reconnaître en cette étrangère une femme de valeur. Il la bénit en ces termes. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Alors merci Colette, tu avais parlé des ailes sous lesquelles on vient se réfugier. C'est là, Boaz prend cette image aussi. Ruth utilise à propos de Boaz le terme de rédempteur, selon la traduction de la Nouvelle Bible Seconde, ou celui qui a le droit de rachat. Nous retrouvons là une des dispositions de la loi mosaïque qui permettait à un proche parent de relever le nom du défunt par rachat, et ainsi éviter qu'il ne disparaisse du milieu du peuple. Mais Boaz sait qu'un parent plus proche que lui peut exercer ce droit. Il va dès le lendemain, auprès des anciens de la ville, siège de l'autorité légale, demander si ce parent veut exercer son droit. Celui-ci, ne voulant ou ne pouvant le faire, donne à Boaz le droit de rachat. Cette assemblée de sages va prononcer une parole de bénédiction que j'ai plaisir à citer. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérets, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Ces hommes connaissent l'histoire du peuple. En fait, Boaz est un descendant de Juda et de Pérets. Les plans de Dieu et sa souveraine grâce ont placé Ruth la Moabite dans la généalogie royale. La quatrième femme citée par l'évangéliste Matthieu est Bathsheba. Elle s'y trouve sans avoir cherché à y être, elle. C'est un adultère suivi d'un meurtre avec préméditation qui l'y place. La faute du roi David, si lourde de conséquences pour sa famille, va placer Bathsheba dans la lignée royale en tant que mère du futur roi Salomon. Là encore, la miséricorde divine agi après la repentance du roi, c'est très sincère. Lisons 2 Samuel, chapitre 11. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » David a pleine souveraineté sur Juda et Israël. Il a transféré la capitale de son royaume à Jérusalem qu'il a conquise aux Jébusiens. Mais il doit encore lutter contre les ennemis aux frontières du pays qui menacent son peuple. Comme de nos jours, il attend la saison propice pour lancer l'offensive contre les Ammonites, les descendants de Lot avec sa deuxième fille. Mais il y a un « mais ». Il reste à Jérusalem et laisse son général en chef, Joab, conduire les opérations. Ce qui peut peut-être nous paraître bien normal aujourd'hui. On ne voit pas beaucoup Poutine sur le front en Ukraine. Mais ça va être la cause d'un grand péché de David. La convoitise des yeux va l'amener à un adultère avec la femme d'un soldat combattant pour lui, d'origine étrangère, descendant de Heth, descendant de Canaan. David, apprenant l'identité du mari de cette femme, va mettre au point un plan criminel pour éliminer discrètement Uri, ce mari encombrant. À aucun moment il n'est travaillé par sa conscience. Lui, le roi choisi par Dieu, le psalmiste si sensible dans sa louange. Nous connaissons son plan. Il veut faire endosser la paternité de l'enfant à naître à Uri, en lui accordant une permission et en l'invitant à prendre du temps avec sa femme. Mais Uri ne veut pas, pendant que ses frères d'armes combattent, prendre du bon temps. Il est surprenant dans son engagement et sa loyauté. Au verset 11, nous voyons ce qu'il dit. « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que mon âme est vivante, je ne ferai point cela. » Si la conscience de David est éteinte, celle d'Uri est remarquable. Mais alors, voyant que sa ruse n'a pas réussi, David va commettre un crime qu'il croit être le crime parfait, celui que l'on ne pourra imputer qu'au hasard de la guerre. En donnant ordre à Joab de mettre Uri en première ligne, là où les chances de survie du soldat sont faibles, Dieu va laisser ce péché aller à son terme. Et David, après ce temps de deuil voulu par un minimum de décence, prend Bathsheba pour femme. Ce qui peut paraître aux yeux du peuple comme une bonne action en assurant à cette veuve du confort matériel. Que dire de Bathsheba ? Elle se lamente sur son mari, mais point sur son péché, et en cela se fait la complice de ce crime. Le dernier verset du chapitre nous dit très sobrement que ce péché, ce crime conçu pour rester caché, n'a pas échappé à celui qui voit tout. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Alors Dieu va transmettre son message par le moyen de Nathan le prophète. Il a une histoire à raconter au roi, sorte de fable allégorique sur le péché de ce dernier. David va lui-même prononcer la sentence qui convient. Cet homme mérite la mort. Nathan ne prend pas de contour diplomatique pour lui révéler que cet homme c'est lui, David, ni pour lui annoncer les jugements que l'Éternel fera tomber sur sa maison. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Affligeante histoire si elle se terminait là. Mais David va confesser son péché, sa repentance n'est pas de façade mais profonde. Comme nous en témoigne le psaume 51, que je vous invite à relire, mais dont je citerai deux versets. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Dieu, dans sa miséricorde, va épargner la vie de David, mais sa justice s'applique, comme l'annonce le prophète, par la mort du fils aîné de cet adultère. David avait prononcé son propre jugement relatif à l'histoire de Nathan, soit que le coupable devait rendre quadruple. David va perdre trois autres fils, Amon par la main d'Absalom, puis Absalom par la main de Joab, et enfin Adonija sera tué sur ordre de Salomon. La guerre au sein de sa propre famille. Pourquoi Dieu a-t-il choisi de faire passer la généalogie du Messie par cette femme de David ? Je pense que c'est pour nous indiquer que la grâce triomphe du péché. Le fils qui naîtra sera baptisé Salomon, ce qui signifie homme de paix, et que l'Éternel appellera Jedidia, soit le bien-aimé de l'Éternel. En conclusion, que nous apprennent ces quatre situations nées d'un manquement, d'un éloignement, d'une injustice et in fine d'un péché. Si l'Esprit a pris soin de les mentionner dans la généalogie de notre Seigneur, c'est pour mettre en relief qu'il honore la foi, qu'il est garant de la justice et aussi que sa miséricorde nécessite une vraie repentance. Tamar est l'exemple d'une foi qui agit pour être placée dans ce peuple élu et être participant de la descendance de Judas en triomphant d'une injustice flagrante et du mépris qui lui est réservé. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le rappelle au chapitre 7, au verset 14, « Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Judas, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Rahab a compris que ce peuple est conduit par un Dieu qui règne dans le ciel et sur la terre. Elle connaît les miracles de la traversée de la mer Rouge, les victoires acquises sur les divers peuples qui se sont opposés. Elle ne doute pas de la victoire prochaine sur l'ensemble de ses ennemis. Elle cite quatre fois le nom de l'Éternel, le tétragramme, dans sa requête auprès des espions. C'est une foi sincère qui la pousse à trahir son peuple. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 31, nous dit « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Cette foi sera honorée par Dieu. Elle n'aurait pu rester à la périphérie du peuple. Mais par son union avec Salmon, cette femme intègre ainsi la lignée royale. Ruth personnifie le parcours remarquable de la foi qui agit, qui refuse de se laisser enfermer dans des situations contraires, son origine, le deuil d'un époux. Elle veut et va entrer dans le plan de Dieu. L'attitude de Boaz est aussi un enseignement pour nous. Il va lui aussi reconnaître les qualités de cette étrangère et va faire primer la loi du rachat sur l'interdiction d'alliance avec les Moabites. C'est un discernement du cœur qui lui permet de voir selon le plan divin. Les anciens de Bethléem sont aussi dans la même disposition. Et c'est remarquable. L'Esprit les guide, leur fait comprendre et formuler la bénédiction pour cette femme qui a recherché cette place au sein du peuple. Cela doit nous garder d'un légalisme souvent facile qui nous dédouane d'une attitude d'écoute attentive de ce que l'Esprit veut nous dire au travers de la parole de l'Esprit de Christ. Sommes-nous des bénédicteurs ou des procureurs ? Souvenons-nous de Boaz et des anciennes de Bethléem, et aussi de ce passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Comment ne pas être attristé et impressionné par l'histoire de David et Bathsheba, attristé par le péché de David qui porte atteinte à la gloire de Dieu, lui le roi ouin et choisi par Dieu, par la noirceur de la nature humaine qui inhibe toute conscience de mal, impressionné par la miséricorde divine qui, suivant une profonde repentance, laissera David sur le trône, sans oublier la justice qui s'appliquera sur la maison royale. L'évangéliste va par cette généalogie et ses quatre femmes mettre en avant la grâce souveraine de Dieu qui a donné un sauveur en rapport avec les péchés de Judas, l'éloignement d'Elimelech et le crime de David. La victoire sur le péché, et par là même sur la mort, est assurée par Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. C'est en lui que nous plaçons notre confiance, notre espérance. C'est par lui que Dieu se révèle, que nous pouvons comprendre l'amour de Dieu, sa sainteté, sa justice et sa grâce agissant pour notre salut.